Peut-être comment ils allaient s'en sortir financièrement. Peut-être si les 11 disciples allaient continuer à se voir régulièrement. Peut-être s'ils allaient arrêter de prêcher et puis ils allaient reprendre leur ancienne profession. Peut-être c'était ça sa préoccupation. Pas vraiment. Voici ce que Jésus dit à Pierre. Il dit comme ça. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Pour Jésus, le monde spirituel était bien réel. Il croyait que le règne de Dieu existait, mais il croyait aussi que Satan, un ennemi bien réel, existait aussi dans ce monde. Et pour Jésus, tout comme Dieu est en action dans ce monde pour se révéler à nous, pour nous offrir des opportunités de le rencontrer, l'ennemi est aussi en action dans ce monde pour nous éloigner de Dieu. Il y a un officier au Brésil qui est descendant de japonais. En effet, au sud du pays, au Brésil, il y a une grande communauté de japonais qui avait migré au Brésil, si je ne me trompe pas, pendant la guerre. Et son passe-temps était de faire des figurines en papier d'aluminium de samouraï. Un peu comme celle-là, j'ai trouvé sur Internet cette image-là, on n'arrive pas très bien à voir, mais ça c'est en papier, du papier comme ça. Mais lui, il faisait en papier d'alu. Du coup, il me demandait de garder les petits aluminiums, par exemple, de chocolat, les petits œufs de chocolat qu'on a à Pâques, ces aluminiums colorés, de ne pas les abîmer, de les laisser bien droits, parce qu'après, il utilisait pour faire des figurines comme ça. C'était son passe-temps. Et il habitait à l'étage, en dessous de mon logement. J'avais à peu près 8 ans à l'époque. Et un jour, j'étais allé chez lui pour voir toute sa collection. Il avait plusieurs samouraïs faits avec ses alus. Et j'ai demandé, pourquoi tu ne fais pas des ninjas? Et puis, il m'a répondu qu'au Japon, les samouraïs étaient les soldats d'élite qui étaient loyaux à leur seigneur. Ils avaient même un code d'honneur, par exemple. Ils devaient être toujours honnêtes, ils devaient aussi être courageux pour la justice. Et ils avaient ce code-là. Et il m'a dit, les ninjas, par contre, eux, ils étaient des assassins mercenaires. Ils étaient payés pour s'infiltrer discrètement dans les châteaux, pour voler, pour assassiner. C'est pour ça qu'ils ne faisaient que des samouraïs, parce que pour lui, dans l'histoire du Japon, c'était très important, cette figure-là. Et Jésus, il a fait la même description que mon ami a fait sur les ninjas. Il a dit que l'ennemi de notre âme, l'ennemi spirituel, est aussi pour voler, pour tuer et pour détruire. Voler, par exemple, la paix. L'ennemi veut nous voler la paix. Ou tuer l'espoir pour le futur, tuer la confiance en Dieu. Ou détruire, par exemple, détruire les relations, détruire l'amour dans la vie de quelqu'un. Et l'ennemi a toute une palette d'armes qu'il aime bien utiliser. Et j'en ai choisi quelques-unes pour vous présenter. La première, c'est l'apathie. Les ninjas, par exemple, ils avaient des armes de distraction, des pétards pour distraire l'ennemi ou des poudres, la poudre aveuglante. Du coup, l'attention de la personne est déviée et ils pouvaient s'enfuir ou s'infiltrer où ils voulaient s'infiltrer. Il y avait aussi ces fameuses étoiles de jet. Que c'est pas comme les films. Les films, ils utilisent ça et puis ça tue la personne. Mais en fait, dans l'histoire, ça s'appelle un shuriken, ça. C'est une arme de distraction. C'est pour blesser la personne. Et puis comme ça, elle est distraite avec sa blessure et l'autre, il peut s'enfuir. Comme ça, l'autre, il va pas réagir correctement s'il est blessé. Et l'apathie ressemble à ça dans notre vie spirituelle. Elle ne tue pas. C'est simplement une indifférence envers les choses de Dieu. C'est facile à utiliser. Soit l'ennemi fait diversion, il nous offre plein d'activités, de projets, de loisirs, jusqu'à ce qu'on se dise, ben, Dieu, bof, j'ai pas besoin. Ma vie va très bien sans lui, ça marche très bien. J'en ai pas besoin d'avoir un Dieu dans ma vie. Soit sa distraction, c'est, il prend quelque chose qui nous a blessés dans la vie, et on s'apitoie, on regarde juste notre blessure, et on oublie qu'il y a un Dieu qui a des plans, un Dieu qui peut guérir, qui peut même utiliser les blessures qu'on a reçues pour quelque chose de bon. Une deuxième arme que l'ennemi aime bien utiliser, c'est la tentation. Les vrais ninjas, ils n'étaient pas vêtus comme ça, en pyjama. Ce serait trop facile de les repérer. Leur spécialité, c'était l'infiltration, le sabotage et les techniques de dissimulation. Ça s'appelait le ninjutsu. Donc, ils se déguisaient comme ça, en marchand, en paysan ou en moine bouddhiste, pour s'infiltrer dans les châteaux et dans les royaumes. Dans nos vies, la tentation, c'est très similaire. Pour tout besoin qu'on a en nous, Dieu a prévu une manière légitime de le satisfaire, ce besoin. Par exemple, le besoin d'amitié, le besoin de reconnaissance, le besoin d'intimité, le besoin de sexualité, le besoin de sens, le besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Tout ça, c'est légitime. Avec la tentation, l'ennemi propose un raccourci pour saboter le plan de Dieu pour notre vie. Il va dire quelque chose de ce genre. Pourquoi pourvoir à ses besoins comme Dieu le veut? Je te propose quelque chose de beaucoup mieux et qui satisfait maintenant. T'as qu'à dire ça à telle personne. Ou t'as qu'à mettre de côté cette personne. Alors il va suggérer, clique ici, personne ne voit. Ou propose ceci, ou réponds comme ça. De toute façon, tout le monde le fait. Et c'est pas si grave que ça. T'en as besoin et t'es libre. Tu peux dire et faire ce que tu veux, finalement. Bien sûr, il va pas te dire les conséquences de pourvoir à ses besoins de cette manière. Il va pas dire qu'il y aura des relations brisées. Il va pas dire qu'il y aura un sentiment de solitude. Il va pas dire une addiction qui peut venir. Tu pourras même te sentir plus puissant, mais tu te sentiras moins satisfait au bout du temps. Et une troisième arme que l'ennemi adore utiliser, c'est celle-là, l'accusation. Les ninjas étaient formés pour la guerre psychologique. Ils appelaient ça le Kyojitsuten. C'est l'art d'échanger le vrai pour le faux. Un mensonge, du coup. Le but était de faire paniquer l'ennemi ou de lui faire prendre de mauvaises décisions. Par exemple, les ninjas s'infiltraient dans les châteaux des mois à l'avance en se faisant engager comme serviteurs, cuisiniers ou jardiniers. Ils écoutaient les conversations et puis lançaient de fausses rumeurs. Par exemple, le général X s'apprête à trahir le Seigneur. Quand la rumeur prenait, il y avait une paranoïa chez les samouraïs et chez les seigneurs. Il y a des seigneurs qui ont même fait exécuter leurs propres généraux de confiance à cause de fausses preuves semées par un ninja infiltré. Et l'accusation de l'ennemi de notre âme, c'est super destructeur si on croit à l'accusation. C'est facile d'avoir la force qu'elle a. Écoutez, si il dit dans ta tête, t'es pas belle, t'es pas assez fort, tu feras toujours les mêmes erreurs, les autres sont meilleurs que toi, si les autres te connaissaient vraiment, ils te rejetteraient, t'es pas doué pour les relations, à quoi bon prier maintenant, c'est trop tard pour toi, tu vas plus à l'église, donc Dieu ne t'aime plus. Tu es seul. Dieu t'a abandonné. C'est des phrases fortes, non? Et il se fera un plaisir fou de les utiliser au bon moment dans votre tête pour détruire. C'était avec cette réalité spirituelle du mal que Jésus était préoccupé lorsqu'il allait donner plus de place à ses disciples pour prendre des décisions sans sa présence physique. Et c'est pour ça qu'il a dit ça, qu'on a lu au début. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Aujourd'hui, comme Jésus, on veut prier pour vous, les jeunes du YEP qui terminent, pour que votre foi ne disparaisse pas. Et on veut aussi vous donner des pistes pour que vous sachiez combattre l'ennemi qui est bien réel. Mais pour exemplifier comment il peut être très sournois les tactiques de l'ennemi, on va faire un jeu. Les yepeurs qui font la confirmation aujourd'hui, j'aimerais que les quatre vous soyez là, proche de la batterie. Et j'ai besoin de 8 volontaires de 10 à 70 ans. De 8 volontaires qui ont cette tranche d'âge, entre 10 et 70 ans et qui savent lire. Les quatre vont au gymnase. Du coup, il y aura des combats. Là aussi, peu importe le chemin qu'ils avaient pris, il y aurait des combats. Pour ceux qui ont vu Matrix, vous savez quand Neo et Trinity sont dans une salle toute blanche. Et puis il y a toute une palette d'armes qui défilent pour qui est à leur disposition, c'est la prochaine image. C'est un peu ce que Dieu nous propose pour lutter contre l'ennemi beaucoup d'armes. Philippe a déjà parlé sur quelques-unes. On va voir quelques autres armes. Le verset pour cette petite réflexion, c'est ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours au gymnase, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout. J'ai besoin de 3 enfants. On a parlé de mode dans l'autre jeu. Et maintenant, il y aura un petit défilé de mode. J'ai besoin de 3 enfants entre 6 et 8 ans qui vont être guidés par Clarissa. Et à chaque fois, vous allez mettre les armes et défiler ici avec l'arme que je vais expliquer. Mais ça peut être des armes un peu drôles. Du coup, il faut être prêt à ce qu'on trouve drôle, ce que vous mettez. Entre 6 et 8 ans. Oui, bien, très bien. Excellent. Encore 2. Entre 5 à 9, allez, on va élargir la palette d'âge. Ah, très bien. Super. Oui, Florine, bien. Très bien. 3 filles courageuses qui vont mettre les armes, lesquelles je vais expliquer. Clarissa va vous prendre pour vous amener à côté. Je vais dire quel est le premier vêtement que la Bible nous conseille à utiliser. Vous allez là-bas pour le choisir un pour porter. Mais pour le premier vêtement, elle va choisir en premier, elle en deuxième, Florine en dernier, puis après ils vont inverser. Du coup, c'est possible que le premier ait un meilleur choix, parce qu'il n'y a que trois objets de chaque. Mais après, ils vont inverser, d'accord? Même si vous n'avez pas pu choisir en premier, pour l'autre arme, c'est vous qui allez choisir en premier. La première arme, c'est prenez la vérité comme ceinture. La Bible nous conseille. Vous pouvez partir avec Larissa, vous allez choisir une ceinture et vous revenez seulement quand je vous appelle. La difficulté du jeu qu'on a fait avant, le petit secret ninja, c'est qu'on ne sait pas qui dit la vérité et qui fait semblant de dire la vérité. C'est ça qui est difficile. Du coup, dans votre vie, pour les jeunes spécifiquement, si tu n'es pas sûr de qu'est-ce que c'est la vérité, alors toute option peut être vraie. Par exemple, Dieu existe ou il n'existe pas? Ben, si je ne sais pas qu'est-ce que la vérité, ben, il y a 2 options qui sont valables. S'il existe, c'est une personne ou c'est juste une force cosmique? Si c'est une personne, il s'intéresse à comment on vit notre vie ou il a juste créé le monde et puis il a dit « débrouillez-vous ». S'il existe une vie après la mort, est-ce que oui ou est-ce que non d'abord? Et puis si oui, est-ce qu'il y aura un jugement de nos actions sur Terre après ou peu importe comment on a vécu, tous iront au même endroit? Il faut savoir qui dit la vérité pour pouvoir avoir de bonnes réponses pour ce genre de questions. Donc la Bible nous dit « découvre qui dit la vérité et puis accroche cette vérité comme une ceinture à toi ». Et puis, Jésus a dit à ses disciples cette phrase étonnante qui a déjà été dit ce matin. Tu peux mettre, Anna, et la prochaine. Il a dit, Jésus, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Il faut être très sûr de lui, audacieux pour dire une phrase de ce genre-là. Hein. Voilà, du coup, on va voir la vérité qui a été choisie. Vous pouvez venir. On peut les applaudir, les défiler. Bravo, vous êtes très belles. Maintenant, vous allez laisser la ceinture, vous allez mettre le prochain accessoire. C'est mettez la justice comme cuirasse. Allez-y. Tout comme les samouraïs, un disciple de Jésus est loyal à son Seigneur. Il suit un code d'honneur. Il poursuit la justice, mais pas celle de ce monde, la justice du royaume de Dieu. Puis en disant « enfiler la cuirasse de la justice », Paul est en train de dire « rappelez constamment de suivre ce qui est juste selon Dieu, pas de suivre ce qui est juste selon le monde, parce que c'est une justice différente. Quand j'étais, juste avant de venir en Suisse, j'étais au conservatoire pour étudier de la musique populaire brésilienne. Et puis, on avait une matière qui était musique de groupe. On devait répéter ensemble. J'étais le seul pianiste. Il y avait des saxophonistes, des trompettistes, plusieurs instruments, des instruments de percussion aussi. Et puis, pour ce semestre, le professeur avait choisi un compositeur spécifiquement. Puis il y avait aussi quelques morceaux d'autres compositeurs. Mais de ce compositeur que je ne connaissais pas, les titres commençaient à me tilter parce qu'il y avait des titres comme « O Doudoua »,« Je suis Luan »,« Mère Irasema », »,« Chose numéro 3 ». Je commençais à dire « C'est un auteur brésilien, pas très connu ». Ça m'a dit « Je pense que ces musiques, c'est un peu des louanges aux esprits » par les titres qui là. Ça semble un truc de ce genre. Puis je ne savais pas trop quoi faire. J'en ai parlé à quelques amis chrétiens, avec une pizzeria, j'ai partagé ça. Écoute, ces titres, c'est quand même un peu bizarre. Puis je suis allé rechercher, puis effectivement, c'était des esprits, des entités spirituelles. Et puis les titres des musiques étaient pour ces entités. Mais il n'y avait pas de parole dans la musique. Hein. Alors j'en ai parlé à quelques amis chrétiens, et puis quelqu'un a dit, ça me vient ce verset. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Du coup, j'ai pris ce verset, je vais à la maison, j'ouvre le passage pour lire le passage tout en entier. Et puis dans ce passage, il parle de la viande sacrifiée aux idoles. Et puis Paul essaie de répondre, est-ce qu'on doit manger la viande sacrifiée aux idoles ou est-ce qu'on ne doit pas manger de la viande sacrifiée aux idoles? Il explique pendant tout le chapitre et après sa conclusion est, si quelqu'un vous offre à manger, mangez. Ne questionnez pas est-ce que c'est sacrifié aux idoles ou est-ce que c'est pas sacrifié aux idoles. Mais si quelqu'un vous offre à manger et dit c'est sacrifié aux idoles, alors comme raison de conscience, alors ne mangez pas. C'était ça son conseil. Du coup, je savais que c'était une musique pour les idoles et j'ai décidé donc de suivre cette justice-là et dire ben, je ne vais pas jouer ces morceaux. Mais je devais dire à mon prof aussi, et puis j'étais le seul pianiste. Et puis on allait présenter à la fin de semestre, du coup il y avait des 8 morceaux, peut-être 4, j'allais pas pouvoir jouer. Du coup je m'approche à la fin d'une classe, je dis écoute, j'ai des convictions chrétiennes et puis j'ai découvert que ces musiques sont dédiées à des entités spirituelles, je suis pas d'accord, je vais pas les jouer, ni à la répète, ni le jour de la présentation. Et il a super bien réagi. Il a dit ah si t'as de ces convictions là, alors ok tu joues que les 4. Et puis il m'a jugé, il m'a donné une note que par les 4 musiques que j'ai jouées et il n'a pas évalué comme si j'avais fait 0 sur les 4 morceaux que je n'ai pas joués. Ça aurait pu mal se passer, il aurait pu dire ok, donc tu rates cette branche-là et tu la refais le semestre prochain. Mais dans ce cas, ça s'est bien passé. Et c'est ce que la Bible nous conseille de dire, de faire. Il dit Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous de faire des lâches, nous rend forts, aimant et réfléchi. Ce verset nous dit que l'Esprit nous donne la force pour faire ce qui est juste, il donne de l'amour dans nos actions et la capacité de réfléchir pour savoir quelles sont les valeurs du royaume de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas une valeur du royaume de Dieu. Je vous invite à applaudir nos cuirasses de la justice, là, les mannequins. Bravo, vous êtes toujours aussi belles. Le prochain, c'est recevez l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous pouvez aller choisir votre prochain accessoire. Voilà une bonne arme. Je pense que c'est Philippe qui a déjà dit aujourd'hui. La Bible dit, en effet, le prochain, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et elle entre en nos profondeurs, elle va jusque dans notre cœur. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. C'est une épée contre l'ennemi, la parole de Dieu. Par exemple, s'il me dit, t'es pas belle, pour moi t'es pas beau, je prends l'épée de la parole de Dieu et je dis, je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. C'est un verset de la Bible. Et je peux dire, je suis merveilleux. Je suis merveilleux et je combats ce mensonge, t'es pas beau avec ça. Ou si il y a le mensonge qui vient, c'est t'es seul. Ben je prends le verset qui dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je combats ce mensonge avec ça. Ou t'as fait trop d'erreurs, c'est trop tard pour toi. Je combats ce mensonge avec qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude ou la souffrance? Je suis sûr que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il faut apprendre à manier l'épée de la Bible pour gagner contre les mensonges de Satan ici. Quand on lutte dans un domaine, on apprend un verset par cœur et puis on combat ce mensonge, on enfonce dans l'ennemi cette vérité jusqu'à ce que le mensonge perd sa force. Je vous invite à applaudir les mannequins avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Merci beaucoup. Le prochain accessoire, c'est les... Prenez les sandales de l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Vous pouvez y aller. L'ardeur, c'est quand tu sais, tu as très envie de partager quelque chose avec tes amis. Quelque chose de bon qui t'est arrivé. Tu as envie de raconter aux autres. Et c'est ça qu'il dit. Si c'est vraiment aussi beau que ça, que Jésus apporte de l'espoir et du sens à la vie... Eh bien, c'est malhonnête de garder que pour soi. Ce n'est pas juste une question de goût, c'est de la malhonnêteté. Parce que si c'est bien, il faut le partager aux autres. C'est comme si quelqu'un souffrait d'allergie au pollen. C'est mon cas, c'est le cas aussi de ma femme et de Théo. Si on ne savait pas qu'il y avait des médicaments, puis on avait la gorge qui gratte, les yeux enflés, le nez qui coule à longueur de journée, et qu'on ne savait pas, et puis vous savez... Il y a un médicament, écoute, tu sais, moi aussi je souffre des allergies, j'ai un médicament, si quelqu'un ne me dit pas ça, eh bien c'est un manque de compassion de ne pas me dire, ben, il y a des médicaments, tu peux prendre et ça ira mieux, tes allergies. Tu pourrais essayer, au moins la personne elle peut me dire. Après, si quelqu'un dit, bon, les médicaments j'en prends pas, ça empoisonne la vie... Ben, c'est le choix de la personne, mais au moins on a pu dire, il y a cette option-là, tu décides si tu veux prendre ou pas. Et ces sandales sont considérées comme une arme, parce que cacher la vérité de Jésus derrière une forme de politesse, je ne veux pas que l'autre se sente gêné, ben, c'est laisser l'espace pour que l'ennemi continue à semer un mensonge. Si Dieu apporte vraiment un plus fondamental à la vie, c'est juste normal de le partager autour de nous. Simplement de dire... Je crois, et pour moi, ça apporte ça. Si tu aimerais, ben, je peux t'accompagner, je peux t'inviter avec moi pour venir à l'église. Notre époque est fan du mot tolérance. Et dans l'émission Pékin Express, par exemple, il arrive souvent que les participants soient invités à participer à une cérémonie bouddhiste, par exemple. Et normalement, ils acceptent. Ben, pourquoi ne pas inviter aussi à venir à un culte? Viens voir comment on rencontre Dieu dans mon église. Et si la personne se sent inconfortable avec l'invitation, on peut lui demander, mais quels sont tes préjugés par rapport à l'Église? Une fois que la personne a dit, on peut lui dire, ben, sois un peu ouvert d'esprit. Tu ne peux pas savoir ce que c'est sans l'avoir expérimenté par toi-même. C'est de la tolérance quand même, ça. Et on peut être surpris sur combien de personnes peuvent dire oui à l'invitation. Le verset dit, proclame la parole, insiste, convainc, encourage avec une patience inlassable. Je vous invite à accueillir nos mannequins avec, oui, les chaussures qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Le prochain, c'est prenez le bouclier de la foi. C'est quoi ce bouclier de la foi? C'est cette certitude. Tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Contre quoi est-ce que tu es en train de lutter? L'orgueil? La colère? Les pensées qui te dénigrent? L'apathie pour Dieu? Le manque d'espoir? Les rechutes récurrentes dans un péché? Le bouclier veut dire tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Toi aussi, tu peux vaincre le monde par la foi. Je vous invite à applaudir nos mannequins avec le bouclier de la foi. essayer la dernière arme, c'est le casque du salut. Et c'est ce verset qui explique ce que le casque du salut veut dire. En psaume 46, c'est marqué « Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider ou à nous sauver dans le malheur. » Le salut de Dieu est toujours disponible. Même si on ne sait pas comment agir dans une telle situation, même si on a fait faux avant, même si on a péché, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Quand on est arrivé à Orbe, la première semaine qu'on était là, on venait de sortir de l'école, il y a eu un ensevelissement à faire. Puis je suis allé devant Dieu pour dire, je ne sais même pas comment faire un ensevelissement. Et c'était moi qui étais le responsable de faire, je ne connaissais pas la personne, je n'avais jamais fait une cérémonie comme celle-là. Mais de dire, ben, Dieu a un abri toujours disponible. Même si on ne sait pas faire quelque chose, on peut venir et dire, aide-moi, j'ai besoin d'aide parce que je suis coincé. Je ne sais pas comment faire. Après, j'ai demandé de l'aide et des personnes plus expérimentées ont pu m'aider à préparer cette cérémonie, à rencontrer la famille, à parler avec les personnes responsables aussi pour le cercueil et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il termine les armes en disant « Priez tout le temps ». Ça nous rappelle que Dieu est toujours là, disponible, et on peut vaincre le monde. Et je demande d'applaudir nos mannequins pour leur dernier tour.